Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer pour ne pas nous mettre trop en retard et surtout avoir le temps qu'il faut pour aller pour les questions et puis aussi avoir un sas entre la fin de l'échange et puis le début de la prière. Les choses vont se passer de la manière suivante. Je vais vous parler, disons, une petite demi-heure, et puis Madame de Blaye va faire le lien entre ce que je vous aurais dit, qu'elle n'a pas encore entendu, et puis la vie de Vannes, et puis nous aurons encore une petite demi-heure pour l'échange.
Oui, c'est ça, on a une heure.
Voilà. Alors, j'ai dit à Sophie, j'ai expliqué à Sophie que je n'avais pas le temps de préparer une conférence pour ce soir, donc je vous resserre quelque chose que j'avais préparé dans un autre cadre pour des séminaristes, pour tout vous dire. Mais ça tombe très bien, puisque lundi prochain, nous serons le 29 juin, et le 29 juin, nous célébrerons la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, premier constat, on les célèbre ensemble. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils ont vécu à la même époque, parce qu'ils se sont rencontrés, mais c'est parce que, d'une certaine manière, on peut dire que non seulement Pierre et Paul, chacun à leur manière, sont des colonnes de l'Église, mais qu'ils le sont aussi dans leur dialogue. Il y a une complémentarité entre Pierre et Paul, qui est aux fondations même de l'Église. Et la liturgie, donc, depuis l'Antiquité, les a unis dans une même célébration. On pourrait avoir une célébration de Paul et puis une célébration de Pierre. Alors, il y a plusieurs célébrations de Paul et de Pierre dans le calendrier, vous le savez. Il y a une célébration de ce qu'on appelle la chair de Pierre, hein, au mois de février. Il y a une célébration de la conversion de saint Paul. Mais la grande fête des deux, hein, qui est la mémoire de leur martyr, le martyr s'est passé probablement à quelques années de distance, disons dans les années 65 du 1er siècle, sous le règne de Néron. Voilà. Donc, nous célébrons leur martyr ensemble, et donc, il est très traditionnel et très éclairant de les considérer en parallèle. D'ailleurs, c'est ce que nous trouvons dans la Bible elle-même, dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, sont un volet d'un diptyque où vous avez d'abord l'évangile de Luc, et puis les Actes des Apôtres, qui sont écrits aussi par Luc, c'est le deuxième volet du diptyque. Mais Luc, qui était un homme qui travaillait beaucoup, un écrivain qui travaillait beaucoup ses textes, composait les choses comme ça en diptyque. Vous avez, par exemple, dans le premier chapitre de Luc, vous avez Élisabeth qui dialogue avec Marie. Et surtout, vous avez ce qu'on dit de Jean-Baptiste, qui est comme en diptyque avec ce qu'on dit de Jésus. Eh bien, dans les Actes des Apôtres aussi, on peut dire qu'en fait, les Actes des Apôtres, c'est surtout les Actes de Pierre et de Paul, et que c'est les Actes de Pierre pour, les 12 premiers chapitres des Actes, et puis les chapitres 13 à 28, on peut dire que c'est les Actes de Paul. Et un exégète contemporain disait, les deux, c'est-à-dire Pierre, dans la première partie des Actes, et puis Paul, à partir du chapitre 13, ont en fait le même message, ils ont les mêmes pouvoirs, ils traversent les mêmes épreuves, ils montrent les mêmes attitudes. Voilà. Donc, vous voyez que dans le Nouveau Testament lui-même, déjà, on met en parallèle Pierre et Paul, hein, qui se complètent. Voilà. Alors, je voudrais m'appuyer sur ces vies, ces portraits parallèles, mais c'est pour approfondir avec vous une question précise. Et l'idée m'en est venue pendant les temps de confinement, donc on a le temps de méditer. Je me suis dit ça en fait en méditant sur la première lettre de Saint-Pierre, hein, qui est un texte attribué à Saint-Pierre, enfin, qui est placé sous le nom de Saint-Pierre. Les exégètes discutent, c'est un peu compliqué pour savoir si Pierre en est réellement l'auteur ou pas, parce que dans l'Antiquité, assez souvent, on plaçait des ouvrages sous le nom d'un auteur qui n'était pas l'auteur réel. Bref, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que c'est plutôt l'apôtre Pierre lui-même qui prend la parole dans cette première lettre. Il y en a deux dans le Nouveau Testament. Et c'est la première lettre de Pierre, si vous avez été attentif, mais peut-être que vous étiez privé d'Eucharistie après dire, hein, ce qui n'était pas mon cas. Mais c'est la première épître de Pierre qui a servi de seconde lecture tout au long du temps pascal cette année. Donc en méditant sur la première de Pierre, j'ai eu cette idée que je vous soumets, et puis c'est là-dessus qu'on va réfléchir, qu'on va débattre, qu'il y a deux aspirations fondamentales de désir, de valeur, comme vous voulez, que nous devons associer dans une vie chrétienne, qui sont d'une part la liberté intérieure et d'autre part l'appartenance communautaire. Le chrétien est un homme libre. Hein. C'est pour que vous soyez libre que Christ vous a libéré, dit Paul dans la lettre aux Galates. Et cette liberté, elle s'enracine chez le chrétien dans un rapport personnel avec Dieu qui habite le cœur, et qui parle au cœur. C'est le grand thème très présent dans les écrits de Saint Paul comme dans les écrits de Saint Pierre, de la conscience. Donc le chrétien est un homme libre, est un homme de conscience. Et c'est un homme de conscience pas simplement, et surtout pas d'ailleurs, parce qu'il se conforme aveuglément à des codes moraux, mais c'est un homme de conscience parce que c'est un homme habité, je dirais. Et donc c'est un homme à l'écoute de ce que de la voix de Dieu qui l'habite et qui lui donne le sens du bien, le sens du mal. Mais d'autre part aussi appartenance communautaire, c'est-à-dire le désir profond de la communion, de l'unité. Heureux les artisans de paix, dit Jésus. Ça m'est apparu très fort en méditant la première de Pierre et puis la vie de l'apôtre Pierre. Comment il se montre homme de liberté et comment, de façon assez extraordinaire, on n'aura pas beaucoup de temps d'étudier les choses, mais comment Pierre reçoit de Jésus après la résurrection cette passion de l'unité. Alors il faut associer les deux. C'est pas facile dans nos existences. Que la communauté soit notre famille, qu'elle soit notre paroisse, qu'elle soit notre pays, n'est-ce pas ? Lier les deux, à la fois cette appartenance avec ce que ça implique d'assujettissement, hein, de compromis, hein, ne serait-ce que pour les horaires, s'entendre sur les horaires ou s'entendre sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, enfin au quotidien, etc. Donc qui dit vie commune dit limitation, auto-limitation, dit assujettissement, dit négociation, compromis. D'autre part, être intérieurement libre, hein, et donc ne pas être conformiste, être prêt à résister à certaines formes de pression ou de manipulation, être capable de juger des choses pour ce qu'elles sont, et non pas seulement pour ce qu'on m'a dit qu'elles étaient. Je pense que ça appartient à notre tradition catholique d'insister sur les deux. Mais je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est aussi l'ère du temps, mais je pense que, catholiques, nous devons redécouvrir, en lisant les Écritures, à la lumière du témoignage des saints, je pense à Vannes, on a aussi canonisé récemment un grand témoin, un grand docteur de la liberté intérieure et de la conscience qui est John Henry Newman. Nous, catholiques, nous devons redécouvrir d'une certaine manière ce respect absolu des consciences. Vous savez que quelqu'un comme Thomas d'Aquin, le théologien dominicain du XIIIe siècle, enseigne, et tous les maîtres ne sont pas d'accord avec lui, hein, mais qu'une conscience, même quand elle est erronée, oblige toujours. Parce qu'en conscience, je pense que je dois faire quelque chose, même si le pape me dit le contraire, c'est un péché de ne pas suivre ma conscience. Ça, c'est ce qu'enseigne Thomas d'Aquin, et c'est ce que vous trouvez dans le catéchisme de l'Église catholique. Hein, et c'est ce que John Henry Newman... Donc ça fait partie de notre... Alors, ça veut dire que... ça veut dire au quotidien que nous devons, devant chacun de nos proches, dans nos communautés, avoir cet infini respect pour sa conscience, parce qu'elle est habitée de Dieu, parce qu'elle est le lieu d'un dialogue toujours singulier, et que, donc, on ne doit jamais se mettre à la place des autres. Enfin, si, on doit se mettre à la place des autres, mais on peut... Il y a vraiment... On ne peut pas prendre les décisions à leur place. Hein. On doit accepter, hein, qu'une personne conduit son existence à la lumière de sa conscience, même si ça peut nous contrarier. Hein. Je pense que c'est sans doute une expérience que des parents font de façon très forte, lorsque, peu à peu, leurs enfants, et ça va dans la nature des choses, s'émancipent. Hein. Il y a donc cette découverte, hein, que, je ne sais pas, la chose me vient maintenant en vous en parlant, c'est Saint-Luc aussi, vous savez, ce moment... Où on conduit Jésus au temple, il a 12 ans, donc selon la loi juive, on doit commencer à le considérer comme un adulte, et il est quand même déconcertant pour Joseph et Marie, mais il l'est parce qu'il se doit aux affaires de son père. Hein. Donc c'est son intériorité qui commence. Donc, voilà, ça c'est pour le thème. Alors, quelques mots, et vous voyez, ça va être très, très rapide, mais pour mettre des choses un peu précises sous ce thème à travers l'existence de Pierre et de Paul. Ce respect de la conscience, qui peut conduire à l'objection de conscience, nous le voyons fortement mis en lumière par les deux apôtres, par Pierre comme par Paul. Par exemple, souvenez-vous de ce que Pierre répond au grand conseil, au Sanhédrin, qui lui ordonne de ne pas prêcher Jésus. C'est au début des Actes des apôtres. Et c'est devenu d'ailleurs une formule reprise par tous les objecteurs de conscience, quelle que soit la cause, hein, qu'ils défendent. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et il ajoute « Nous ne pouvons pas ne pas prêcher. Non possumus. Nous ne pouvons pas. Même si vous nous ordonnez de le faire, nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas céder aux pressions de l'autorité au nom de ce que Dieu, de ce que nos consciences, en lesquelles Dieu parle, exige. » Et on trouve la même référence à la conscience et à Dieu qui l'habite chez Paul. Paul y insiste beaucoup parce que c'est lié à sa vocation d'apôtre. Parce qu'il a eu du mal à se faire recevoir. On comprend pourquoi, hein, dans l'Église naissante. Mais d'où viens-tu ? Mais qu'est-ce que... Tu persécutes les chrétiens et maintenant tu viens nous apprendre ce que c'est que l'Évangile ? Ça nous apprend beaucoup de choses de Paul. Ça nous apprend aussi beaucoup de choses de Pierre. Parce que si Pierre avait dit, mais le chef, c'est moi. Et tout, lorsque nous ne sommes pas d'accord, mais enfin, qui es-tu, toi le persécuteur, pour me faire la leçon ? Or, vous vous souvenez que Paul a fait la leçon à Pierre, c'était à Antioche, lorsque Pierre, après avoir mangé à la même table que les chrétiens d'origine païenne, quand des juifs chrétiens sont venus à Antioche, il a changé de comportement, et alors Paul lui dit, mais ça c'est pas un comportement vrai, là tu joues la comédie. Pierre aurait pu lui dire, mais enfin, écoute, hein. Non, Pierre ne le fait pas. Paul, lui, insiste beaucoup sur sa conscience, parce qu'il dit, moi je suis apôtre, non pas d'un homme, non pas par un homme, je suis apôtre de Jésus-Christ. Si je suis apôtre, c'est parce que Jésus-Christ m'envoie. Et Pierre a bien reconnu que le Christ était là, hein, et a donné sa place à Paul. Mais Paul, dans ses écrits, il faudrait regarder les choses de plus près, parle souvent de la conscience. Le mot de conscience se trouve souvent chez lui. J'ai trouvé, et c'est très beau, je trouve, une référence parmi beaucoup d'autres, enfin, je vous la livre, au chapitre 23 des Actes. C'est lorsque Paul, à son tour, comparaît devant le Sanhédrin. Je vous ai dit que les Actes des Apôtres, ça se présentait souvent comme un diptyque. Alors vous avez Pierre qui apparaît, qui comparaît devant le Sanhédrin au chapitre 4, puis au chapitre 23, c'est à nouveau Paul qui apparaît devant le Sanhédrin. Et alors, il dit au conseil, « Frère, il s'adresse à des Juifs, hein, comme il l'est lui-même, donc « Frère, c'est en parfaite bonne conscience que pour ma part, alors là il y a une formule extraordinaire, et très bien traduite dans la Bible de Bayard, hein, qui est une des traductions récentes de la Bible, « Frère, c'est en parfaite bonne conscience que pour ma part, j'ai été... » Ça, plus pour le groupe, c'est une expression entendue. J'ai été citoyen de Dieu jusqu'à ce jour. C'est une formule grecque un peu difficile à traduire. Elle signifie probablement la chose suivante, c'est que un citoyen doit être loyal à l'égard des autorités de l'État. Eh bien, Paul, lui, dans toute son existence, a été loyal à l'égard de Dieu, comme un bon citoyen l'est à l'égard de l'État. Frère, c'est en parfaite bonne conscience que pour ma part, j'ai été citoyen de Dieu jusqu'à ce jour. Donc il dit aux Juifs qui le mettent en accusation, j'ai Dieu de mon côté. Ce que j'ai fait, je n'ai pas à en rougir devant Dieu. Si nous passons des actes des apôtres qui donc nous racontent la mission de Pierre puis celle de Paul aux écrits des deux apôtres, dans la première lettre de Pierre, en la lisant vraiment, elle m'est apparue comme une sorte de charte de la non-violence chrétienne. On comprend beaucoup de choses à cette lumière en la lisant. Vous savez, il y a ces passages qui peuvent un peu choquer où il parle aux esclaves. Et il leur dit, mais faites comme Jésus. Même que lorsque votre maître vous maltraite, vous ne rendez pas le mal pour le mal. Ce qui veut dire il faut dénoncer le mal. Hein, il ne faut pas dire que le mal, c'est bien. Hein, mais il les invite à ne pas rendre le mal pour le mal à la lumière de ce que Jésus a fait dans sa passion. Jésus n'a pas dit que le mal était le bien, mais au contraire, il l'a dénoncé, il s'est opposé au mal, mais dans cette opposition au mal, il n'a pas rendu le mal pour le mal, ce qui est le principe de la non-violence. Hein. La non-violence, c'est une résistance, la non-violence, c'est un combat. Hein. Si on entend au moins la manière de Gandhi, disons. Jésus, c'est bien ça, c'est-à-dire que Jésus n'est pas quelqu'un qui reste passif à l'égard de l'injustice. Il entre en résistance, mais cette résistance refuse absolument d'user des armes du mensonge et du mal dans la lutte contre le mal. Et si vous relisez la première épître de Pierre à cette lumière, c'est vraiment extraordinaire. Pierre dit dans cette première épître, « Comportez-vous en homme libre ». Comme des serviteurs de Dieu. Vous voyez, être libre, c'est être serviteur de Dieu. Ce qui va faire de vous des hommes libres, c'est de servir, non pas les hommes, mais Dieu. Et ça, c'est très juif. Il y a une fierté juive qui a pu parfois les rendre dieux. Hein, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, même à l'époque de Jésus, un autre couple de Joseph dit « Nous sommes les hommes les plus haïs dans le monde ». Il y a cette fierté juive, mais la fierté juive, c'est que le juif, c'est celui qui a été libéré des idoles et qui n'a de compte à rendre qu'à son Dieu, qu'au Dieu vivant. Eh bien, ce que Pierre et Paul répètent dans leurs lettres aux chrétiens d'origine non juive, c'est eh bien, ce qu'on disait des juifs, maintenant, c'est de vous qu'on peut le dire. Quand Paul prêche la liberté, ce n'est pas de l'antijudaïsme, au contraire, c'est une façon de dire « Mais ça, cette liberté-là, cette liberté des fils de Dieu, elle vous appartient maintenant. Et elle vous appartient parce que Jésus est mort pour vous. Ça, c'est au cœur du message de Paul. Eh bien, je reviens à Pierre, hein, j'étais parti de cette expression. Comportez-vous en homme libre comme les serviteurs de Dieu. Chapitre 2 de la première de Pierre, au verset 19. En vertu de la conscience que l'on a de Dieu, endurer des peines que l'on subit injustement est une grâce. En vertu de la conscience que l'on a de Dieu. Chapitre 3, verset 15. Reconnaissez dans vos cœurs le Seigneur Christ et soyez toujours prêts à défendre votre espérance devant ceux qui vous en demanderont compte, rendre compte de son espérance, hein, c'est aussi un passage de la première de Pierre qui est reconnu, mais que ce soit avec douceur et crainte votre conscience pour vous, afin que sur le point précis où vous êtes calomnié, votre belle conduite dans le Christ confonde ceux-là même qui vous diffament. Votre résistance, ça sera de mener une vie bonne. Et donc de plonger dans la confusion ceux qui disent du mal de vous. Paul, de son côté, renvoie ceux auxquels il adresse ses lettres à leur propre conscience. Par exemple, dans ces affaires de calendrier qui troublent beaucoup les communautés chrétiennes à cette époque, telles qu'il les présente au chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Et c'est quelque chose qui me marque beaucoup chez saint Paul, c'est que Paul, on dit parfois qu'il était ombrageux, coléreux, qu'il imposait ses... Je ne trouve pas du tout, en fait. En gros, aux chrétiens, il leur dit, enfin, ah, circoncision, pas circoncision, viande pure, viande impure, faites comme vous voulez. Vous voulez la circoncision ? Circoncision, pas de circoncision, pas de circoncision, comme vous voulez. Et d'ailleurs, il dit un peu la même chose des charismes, remarquez. Il dit, vous voulez faire des miracles de guérison, faites des miracles de guérison. Vous parlez en langue, allez-y, vous parlez en langue. Vous n'aimez pas qu'on parle en langue, bah, bon, peut-être. Mais la seule chose qui importe, c'est que vous fassiez tout ça dans la charité. Le grand message de Paul, il est là. C'est ce qui importe, c'est la charité. Si ça se fait dans la charité, bon, allez-y. Alors, pour lire exactement le verset que j'ai sous les yeux, « L'un choisit un jour de préférence à un autre. Hein » C'est-à-dire, bon, il veut fêter tel saint du calendrier plutôt qu'un autre. Ce n'est pas exactement comme ça à l'époque, évidemment. Mais... « Et pour l'autre, tous les jours se valent. Hein » Eh bien, « que chacun demeure, » alors c'est aussi une très belle expression qu'on peut retenir, « attaché à son intime conviction. » Que chacun demeure attaché à son intime conviction. C'est toujours la traduction de la Bible de Bayard. Bon, il y en a d'autres, mais j'ai trouvé très belle. Parce que finalement, je trouve que cette expression, c'est tout un programme d'oraison et de vie spirituelle. Attaché à son intime conviction. Alors maintenant, quelques mots. Vous voyez, le temps passe déjà vite, donc je vais plus vous en dire beaucoup. On a vu comment le thème de la conscience, de la liberté intérieure était important chez Pierre et Paul dans leur vie, dans leur mission, et aussi dans ce qu'ils écrivent dans leurs lettres. Mais ce qu'on voit aussi, on l'a déjà largement dit avec ce que je viens de vous rappeler, c'est la manière dont Pierre et Paul sont des passionnés d'unité. Alors, leur grande affaire, c'est de faire vivre ensemble les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non-juive. Et ça, c'est l'un et l'autre, chacun à sa manière, nous le voyons dans les livres des Actes, mène un grand combat pour cette acceptation réciproque, cette écoute réciproque, pas les uns sans les autres. Mais finalement, puisqu'il me reste exactement 2 minutes, je voudrais simplement mais je voudrais comprendre un petit peu de vanne à partir de ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, mais je pourrais rajouter aussi des choses. Mais je vais parler un peu de l'expérience de Pierre, parce que finalement, Pierre, j'ai lu par exemple, je crois que c'était dans La Croix, un écrivain, je ne me souviens plus le nom, même s'il est très connu aujourd'hui, qui est catholique, et qui disait, bon, Pierre, ce qu'on entend parfois dire, hein, c'est le plus maladroit des hommes que le Christ a choisi pour en faire le chef de son Église. Pierre, on le considère bon comme pas très fin parfois, hein, généreux sans doute, mais bon, parfois il ferait mieux de se taire. Eh bien, moi je pense pas du tout. Hein, je pense que, en fait, cette image de Pierre, un peu à son désavantage, de qui la tenons-nous ? De qui la tenons-nous ? Ben de Pierre lui-même. Si vous lisez les évangiles, l'évangile de Marc, c'est, dit-on, avec une assez grande probabilité, l'évangile de Pierre, en fait, hein, que son secrétaire, Marc, a consigné. Mais même l'évangile de Luc, ou l'évangile de Matthieu, les exégètes historiens nous apprennent qu'ils sont en dépendance de la prédication de Pierre. Ce que nous savons de Pierre, et qui est souvent son désavantage, surtout dans l'évangile de Marc, c'est ce qui nous vient de Pierre lui-même. Et là où on a un portrait un peu plus nuancé, c'est quand nous lisons l'évangile de Jean, qui lui ne dépend pas de l'évangile de Pierre. Je vais donner un exemple, puis ensuite je dirai encore autre chose de Pierre, je m'arrêterai là. La trahison de Pierre. Voilà, il fait le fanfaron, et puis il vient l'épreuve, et puis hop, il lâche, et voilà. Alors qu'il a... Le reniement. Pardon, le reniement, Pierre. Hein, on peut dire que c'est une trahison, enfin, on peut dire le reniement Pierre, puisque c'est l'expression que Jésus utilise lui-même. Alors on voit Pierre dire, voilà, tout le monde pourra t'abandonner, moi j'irai avec toi jusqu'à la mort. Et puis, dit-on encore communément, quelques heures après avoir fait le fanfaron, il y a la servante du grand prêtre, que Dieu t'es pas galiléen, non, je ne l'ai jamais connu, etc. On dit quand même, c'est lamentable. Voilà, ça c'est effectivement ce qu'on trouve dans les évangiles synoptiques. On se dit, on explique, voilà, bon, c'est un homme, voilà, fanfaron, et puis... Mais ce que nous dit l'évangile de Jean, qui nous apprend, en plus, que ne nous disent pas les synoptiques, c'est qu'au moment de l'arrestation, Pierre ne s'est pas sauvé. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a fait ? Exactement, il a sorti son glaive, et il a coupé l'oreille de Malchus, et alors qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Et moi je pense que c'est ça l'épreuve de Pierre. C'est accepter d'être désarmé devant le Messie. Et ça, c'est complètement... Alors là, ça le fiche complètement KO. Sa vie, il l'a exposé. Il s'est pas sauvé. Hein? Mais range ton glaive dans le four. Quoi qu'on en pense, d'après moi, c'est le cœur. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, justement, il parlera de Jésus comme l'agneau, hein? Hein, c'est vraiment voilà, le Messie non violent. Hein, il l'a vu à ce moment-là. Donc je pense que c'est le drame profond de Pierre, mais c'est aussi dans cette épreuve, c'est vraiment son retournement, hein, c'est-à-dire sa conception du projet de Dieu. Elle est complètement retournée et elle va s'éclairer au moment de la résurrection. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, après vous avoir dit du bien de Saint-Pierre, c'est plus directement lié à sa manière de servir la communauté. C'est que Pierre s'efface. On aurait quand même pu attendre qu'il dise mais Jésus m'a confié son Église. Alors que Paul lui dit « Moi, je suis apôtre hein, de Jésus. » Pierre, il parle aux anciens. Je suis ancien comme vous, c'est-à-dire prêtre comme vous. Et dans les Actes des Apôtres, remarquez-le bien, après le chapitre 13, il s'efface complètement. Il semble qu'à Jérusalem, ce soit plus lui le chef, mais Jacques, il a laissé sa place. Et à Rome, où il rejoint Paul, quand Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, il ne mentionne pas Pierre. Peut-être parce qu'on est dans un contexte de persécution, mais c'est aussi parce que Pierre ne se met jamais en avant. Il reconnaît le Christ présent dans l'œuvre de Paul. Il l'appuie ainsi de son autorité. Il reconnaît la valeur de ses lettres lorsqu'il expédie ses lettres à lui, Pierre, aux chrétiens. Mais il ne se met jamais en avant. Vous ne verrez jamais chez le Pierre, d'après la Pentecôte, quelqu'un qui dit « c'est mon chef ». Non, il s'efface toujours. Et c'est dans cette humilité, ce retrait, qu'il rejoint le Christ à son abaissement. Et c'est là-dessus, sur ce mouvement de Jésus qui s'abaisse, qui s'anéantit, dirait saint Paul, que l'Église est fondée. Hein. Les deux grands titres de Jésus dans la première de Pierre, c'est l'agneau et la pierre d'angle. Hein. C'est-à-dire que c'est sur l'agneau que l'édifice qu'est l'Église est fondé. Et Pierre, dans cet effacement, sert l'unité de l'Église. Réfléchir à la manière dont, dans nos vies chrétiennes, doivent s'allier, d'une part, la liberté intérieure, l'attention que nous portons à une conscience où Dieu parle, à un cœur habité par Dieu, d'une part, et puis l'appartenance communautaire, le service de la communion. Est-ce que ça a quelque rapport avec Van ?
Bon, merci, hein, déjà, c'était passionnant, hein, on a envie que ça continue, mais... Comme c'est la dernière fois, on laisse un espace pour vos questions parce que on sait que peut-être vous en avez. On peut essayer de faire le lien entre cet esprit messianique de liberté, d'esprit communautaire et ce que Jésus souhaite faire passer à travers Marcel Van pour la France. Enfin, voilà. Je ne sais pas si.
Merci de votre messianique. C'est un terme que je n'ai pas employé, mais il est tout à fait ad hoc.
Moi, j'aimerais savoir s'il y en a qui ne connaissent pas du tout Van. Tout le monde connaît Van.
C'est magnifique.
Ça va m'éviter de vous dire un peu tout ça. Alors Van, ce n'est pas Saint-Pierre et ce n'est pas Saint-Paul, mais après tout, bon Dieu ne nous a pas dit qu'il y a le plus grand. Hein, on n'en sait rien. Donc, lui, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un d'effacé, lui aussi, mais qui a quand même du caractère. Voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère. Et dans son enfance, il a fallu quand même que sa mère essaye de l'orienter pour... il était assez coléreux, et puis il était collé à sa mère, il n'y avait pas moyen... il voulait faire ce qu'il voulait, et c'était assez compliqué. Et puis petit à petit... Alors vous savez, c'est un Asiatique. Donc la culture asiatique est quand même assez différente de la nôtre. C'est-à-dire quand les enfants sont petits, en général, on leur laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Et après, c'est toute la culture, toutes les règles qui font que petit à petit, ils vont rentrer dans le moule de la culture. Donc Van... il sait quand même ce qu'il veut, il est quand même très, très motivé. Dès l'âge de 3 ans, il dit à sa mère « je veux devenir un saint ». Alors sa mère est un peu décontenancée, elle lui dit « écoute, on verra ça plus tard ». Elle ne sait pas très bien quoi répondre. Et lui, dans sa tête, probablement, devenir un saint, c'est justement être avec Jésus, conformé à Jésus. Et ce qui est assez curieux, c'est que Van a grandi... avec Jésus. C'est comme si, il avait vécu avec Jésus et qu'il ait grandi en même temps que Jésus. Il avait une poupée, et cette poupée, vous vous rappelez comment il l'appelait ?
Petit Jésus.
Et donc il parlait avec cette poupée, comme avec Jésus, mais comme un enfant. Il parlait à Jésus quand il avait 3 ans, enfin, il parlait avec Jésus comme un enfant de 3 ans, à Jésus quand il avait 3 ans. Et puis il a grandi avec Jésus, et puis petit à petit, il a parlé à Jésus comme un jeune de 15 ans, et puis ensuite comme un adulte, mais il a été comme configuré déjà à Jésus par cette proximité, par ce dialogue. Il a eu la chance quand même d'être dans une famille très croyante, avec une mère, qui était aussi une femme très énergique, et... vraiment, qui a pris les premières prières à ses enfants, enfin, c'était vraiment une ambiance très catholique. Mais la vie était quand même assez compliquée, parce qu'à l'âge de 7 ans, dans ce désir de devenir saint, pour lui, dans sa tête, il fallait qu'il soit prêtre pour être saint. Bon, aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas suffisant. Et qu'il peut y avoir d'autres cas. Lui, c'était ça. Et il avait demandé d'aller dans une cure pour commencer à se former. Les missions étrangères, et je pense les dominicains aussi, avaient des sortes de maisons Dieu, c'est-à-dire les curés recevaient des enfants pour les former, les habituer, leur montrer ce que c'est que la vie, la vie religieuse, voilà. Sauf qu'il tombe dans une cure assez catastrophique, où rien ne se passe comme il avait pensé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait là des vieux catéchistes. Ce qui se passait, c'est que les jeunes qui rentraient comme ça pour être près du curé, si ça ne marchait pas, ils ne pouvaient plus revenir dans leur famille, ils ne pouvaient plus revenir dans leur village, ils restaient là. Parce que c'était une honte pour la famille que le fils n'ait pas réussi. Donc il y avait là des jeunes, qui étaient déjà des grands jeunes, hein, qui n'étaient plus si jeunes, qui étaient ce qu'on appelait des catéchistes, mais qui étaient, on ne sait pas s'ils avaient encore la foi, mais en tout cas ils étaient très désagréables. Et là il voit arriver ce petit Van qui lui, c'est la candeur même, il prie, il aime prier, il va à la messe tous les jours, il sert la messe du curé. Et donc il renvoie aux autres une image qui les dérange, parce que lui, il fait tout bien d'une certaine façon, et ça fait remarquer que les autres ne font pas tout bien. Les autres, ils font rentrer des filles dans la cure, ils ne s'occupent pas des enfants, Van a été battu, vraiment battu, il a été quand même très bousculé, on l'a privé de son chapelet, après ça on lui a interdit de communier, on lui donnait à manger dans la niche du chien, enfin bon, il a été quand même assez persécuté. Et il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, et il cherche à se sauver. Donc il s'en va à plusieurs reprises. En fait, c'est pour expliquer à ses parents que ce n'est pas vraiment là qu'il va pouvoir se préparer à être prêtre. Et puis quand il arrive chez lui, il n'est pas compris. On pense que ce n'est pas possible, que le curé que la mère avait connu, c'est quand même très bien. Donc on ne le croit pas. Et finalement, je pense à cette liberté intérieure, c'est que lui, il sait bien comment ça se passe à la cure, il voit bien que ce n'est pas formidable, mais il se dit, dans le fond, c'est sûrement là que le Seigneur me veut. Donc... mais quand même, il essaye de s'en aller pour voir si par hasard il ne s'est pas trompé d'endroit. Et là, il y a une conversation avec sa mère, parce que les parents sont, qui étaient assez riches au départ sont devenus très pauvres. Il y a des inondations, ils perdent leur récolte. Et à un moment, la mère dit au curé, écoutez, on ne peut plus vous envoyer d'argent pour lui. On vous le confie. Faites-lui faire les études qu'il veut faire, mais nous, on ne pourra plus l'aider. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent plus le reprendre. Mais le curé, évidemment, profite à ce moment-là, il s'en sert comme d'un domestique, finit les études, c'est assez sinistre la vie qu'il mène là-bas. Et quand il revient chez lui et qu'il discute avec sa mère quand même pour repartir, sa mère lui dit, il faut que tu repartes. Et lui il dit, j'ai pas trop envie de repartir. Alors sa mère lui dit, écoute, va à l'église et puis parle-en avec la Sainte Vierge et puis tu vas voir ce que tu vas faire. Et il ressort de là et il dit, j'y retourne. Donc il est très combatif. Donc il retourne dans cette cure où il était jusque-là assez passif, enfin il supportait, il subissait, et là tout d'un coup il se dit, je vais prendre les choses en main, et je vais m'entourer de tous ces enfants qui sont morveux, qui sont mal élevés, qui sont sales, etc. Et on va faire la troupe des anges de la résistance. Et on va résister. On va mettre les filles qui rentrent dans la cure à la porte. Alors, il invente toutes sortes de choses pour les mettre à la porte. Et puis, on va résister. Ça me fait penser à ce que vous disiez. À la fois, il est obéissant. Van, c'est quelqu'un d'obéissant. Donc, il remplit son contrat. Il est obéissant, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées. Et, entre autres, il a cette liberté intérieure de ce qui est ici ne marche pas. C'est pas comme ça. On ne peut pas accepter ça comme ça. Il faut qu'on réagisse et qu'on remette un peu d'ordre dans cette cure. Voilà. Alors, ça lui ramène des coups de bambou, de la bagarre. C'est, évidemment, ça n'a pas été formidable pour lui, parce qu'évidemment, tout le monde savait que c'était lui le chef, quoi. C'était lui qui encourageait les autres. Voilà. Alors, ça, c'est quand il avait quoi, 12 ans. Oui, il avait 12 ans. Alors, je repense aussi à l'épisode des Dominicains. Il fait un petit passage chez les Dominicains. Et là, il y a un père qui est assez acariâtre, hein, et un autre qui est très gentil.
Ça va.
Donc il est là, et puis ça se passe. Bon, c'est quand même très pauvre. Ils n'avaient pas grand-chose à manger. Il y avait des sœurs dominicaines, des tertiaires dominicaines qui étaient là pour les aider. Et il est quand même. C'est toujours à lui qui arrive les problèmes. Alors. Par exemple, il est assez meneur, alors il dit, bon, bah, nous, on n'a pas beaucoup de moyens là, pour réparer nos vêtements, etc. On va faire un deal avec les sœurs et on va leur demander de faire la couture pour nous, parce qu'on a des trous dans les pantalons, on ne sait pas faire. Parce que sinon, ils étaient obligés de mettre deux pantalons pour que les trous ne soient pas en face. Oui. Donc, ils vont voir les sœurs et ils leur disent, est-ce que vous voulez bien... on fera quelques petits travaux pour vous, mais est-ce que vous voulez bien nous faire la couture? Et là, la sœur répond, bon, bah, les deux autres, on va s'en occuper, mais toi, Van, t'es très grand, tu te débrouilles tout seul. Donc, c'est là qu'il part à l'église, il va se mettre devant la statue de Sainte Thérèse, et puis il lui dit, bah, personne ne veut de moi, donc moi, je n'ai pas de sœur pour m'aider, eh bien, je te prends pour être ma sœur. Voilà. Donc, on voit bien que chaque fois qu'il y a... il fait ce qu'on lui demande, mais chaque fois qu'il y a un problème, il essaye quand même de trouver une solution et d'avoir cette liberté d'agir pour aller récupérer une sœur qui s'est montrée quand même une sœur beaucoup plus efficace que les Dominicaines, hein, finalement.
Concurrence déloyale.
Donc, il est dans la cure et puis, bah, il est... Il y a une scène avec le supérieur. Vous voulez la raconter? C'est quand l'histoire des cheveux.
Ah oui, l'histoire des cheveux. Oui, ben parce que... Donc,
puis la propreté, tout ça.
Le supérieur s'occupait lui-même de couper les cheveux aux pensionnaires. Alors, on le faisait au bol, n'est-ce pas? Et Van estime que c'est pas vraiment esthétique. Et alors, il va lui demander de l'argent pour aller chez le coiffeur, ce qu'il fait, mais quand il revient, il est chassé. En fait. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Oui, et puis il dit un peu ce qu'est la vérité au père, en lui disant...
Ça, c'est dangereux.
Bon, alors l'autre le met à la porte, évidemment. Donc là, ça a été fini l'expérience des Dominicains. Enfin, pour un temps. Donc, on voit que à la fois, il fait ce qu'on lui demande, et en même temps... il n'a pas peur, il a pas peur d'intervenir. C'est pas quelqu'un qui va subir quand il est plus jeune, oui, parce qu'il n'a pas encore tout compris. Puis surtout, il n'y avait pas eu la nuit de Noël 40, vous savez, cette fameuse nuit de Noël 40, où il est abandonné par tout le monde, il est rejeté par tout le monde, et il va à la messe de minuit, et là, pendant la communion, tout d'un coup, il a une illumination, il comprend qu'il a une mission. Et que cette mission, c'est de changer la souffrance en bonheur. Et il dit, à partir de ce moment-là, ça a changé complètement sa vie. Il y a l'avant, il y a l'après. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il comprend que, quoi qu'il arrive, il a toujours cette capacité d'offrir ce qui se passe et de transformer ces choses qui sont mauvaises, de les transformer en joie. parce qu'il les a offertes et parce qu'en les offrant, il participe à la rédemption de Jésus. Voilà. Donc, je pense encore à d'autres passages. Quand il est, alors après, il est devenu religieux chez les rédemptoristes. Bon, alors, il était à la taillerie, il s'occupait des pièces de tissu, des soutanes pour les pères. Donc, il était à la taillerie. Et là, il aimait bien, lui, il respectait la règle. Il était pour la règle, mais la règle strictement, quoi. Bon, et le supérieur avait dit qu'il ne fallait pas donner de tissu à qui que ce soit sans avoir un mot du supérieur pour avoir tant de mètres de tissu. Et dans ses écrits, il dit en fait, il y avait des pères qui venaient là et qui se prenaient pour... ils n'avaient aucune autorisation et ils m'ordonnaient de leur donner du tissu. Et lui, il trouvait ça scandaleux, quoi, parce que ses pères ne respectaient pas la règle. Alors après, bon, il n'était pas toujours en mesure de réagir contre les pères en question. Mais il avait compris, enfin, je veux dire, il voyait tout ce qui se passait. Et on voit ça aussi dans ses écrits. C'est quand même assez étonnant. Comme je disais, les Vietnamiens sont très attachés à la famille, à la hiérarchie. Et en famille, on se protège. On ne se critique pas à l'extérieur. Et en famille, il y a une hiérarchie qui fait qu'on respecte toujours celui qui est juste au-dessus. Ça, c'est très, très fort. Donc, les enfants sont soumis aux parents et les enfants ne font pas de réflexion et de remarques aux parents. Ce n'est pas l'habitude. Donc, Van, il est très vietnamien. Il est très vietnamien pour sa culture. Il est très respectueux de sa culture. Et on voit dans ses écrits à la fois le respect qu'il a pour cette culture et en même temps la liberté qu'il prend une fois qu'il a respecté toutes les règles, il a une part de liberté. Alors par exemple, quand il écrit son autobiographie, c'est toute sa vie du début jusqu'à son entrée au monastère. Donc là, comme je vous ai dit, il a quand même vécu des choses qui sont difficiles, pas très agréables, qui mettent en cause des gens, etc. Et c'est son père spirituel, le père Boucher, qui lui a demandé d'écrire son histoire. Alors il écrit son histoire, et d'ailleurs il l'écrit 4 fois, parce que le père trouve qu'il peut faire mieux, donc il l'écrit 4 fois. La quatrième, qui est la bonne, celle qu'on diffuse, dans cette autobiographie, il dit « Mon père, c'est la 4e fois que je recommence, j'espère que cette fois-ci c'est bien. » Alors c'est bien parce que c'est 2 ans avant qu'il parte dans le camp, donc en fait il a plutôt sa vie derrière lui, et il a plutôt compris ce que Dieu a voulu faire avec lui. Donc, dans cette autobiographie, il fait ce que le père lui dit, il raconte l'histoire. Et à certains moments, il dit « Mon père, il y a des choses, j'aimerais pas vous raconter ça, mais bon, puisque c'est vous qui me le demandez, qui m'obligez, je vais le raconter. » Il raconte ce qui se passait dans la cure. C'est pas dans la mentalité asiatique de raconter ce qui se passe dans un milieu clos, qui est une famille, une cure, un groupe. Mais puisqu'on lui a demandé, eh ben il le fait. Voilà. Donc, j'ai entendu des objections quelquefois dire « Oh, mais c'est pas un Vietnamien qui aurait fait ça. » Ben si, il l'a fait par obéissance. Et ensuite, il a pris la liberté de faire ce qu'on lui demandait. Et on a eu des témoignages d'ailleurs des cures voisines qui nous disaient « Ce que Van a écrit, c'est rien à côté de ce qui se passait réellement. » Donc, il n'a pas exagéré sur ce qu'il a raconté. Après, il y a le deuxième livre de ses écrits, c'est les colloques. C'est les conversations qu'il avait avec Jésus, Marie et Thérèse pendant son temps de postulat et de noviciat.
Excusez-moi.
On pourrait avoir...
Oui, c'est un temps dédié aux questions aussi, sinon il faudrait qu'ils aient un peu de temps. Mais c'est bien, vous avez ramené, rappelé les choses, les principales étapes de sa vie et des anecdotes que vous n'aviez pas dites la première fois. C'est bien.
Non, c'était pour montrer le...
Oui, mais c'est très bien sur la conscience et tout ça, et l'obéissance.
De la poésie, on nous dit que ce n'est pas la poésie qu'on fait au Vietnam, sauf que c'est Thérèse qui a dicté la poésie. Alors,
Ah oui. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est la dernière fois dont on souhaiterait... Peut-être, si vous avez des questions, par rapport, pour faire le lien avec les deux interventions, des passages que vous voulez préciser, c'est pas évident.
Ouais, j'avais une petite question par rapport à ce qu'avait dit le père. Parce que quand vous disiez qu'il fallait mieux suivre sa conscience que de suivre ce qu'avait dit l'Église. Et ça m'a beaucoup étonnée parce qu'il me semblait que Sainte Thérèse, elle disait au contraire qu'elle préférait avoir tort et suivre l'Église que le contraire, qu'avoir raison et ne pas suivre l'Église.
Ah, c'est pas Saint-Dominique qui disait ça.
Alors c'est très, très intéressant ce que vous dites. Et donc, prêtons attention au terme. Hein, c'est-à-dire que autre chose est d'avoir tort ou d'avoir raison, hein, et autre chose est de suivre sa conscience ou pas. Hein. Et ce que dit Thérèse d'Avila ici, c'est que, évidemment, et on le sait bien, hein, l'Église, c'est-à-dire, précisons les choses, hein, des gens d'Église, nos pasteurs, voilà, peuvent donner des instructions qui sont des instructions qui s'avèrent catastrophiques, en fait. Hein. Et là, Thérèse dit, mais après tout, voilà, je reçois ces instructions-là. Si en conscience, je n'ai pas de raison de m'opposer à ces instructions, eh bien, je préfère les suivre. Mais Thérèse dit, donc, avoir raison ou tort, elle ne dit pas, nulle part, vous ne trouvez l'affirmation selon laquelle il faut que je suive l'Église plutôt que ma conscience. C'est plutôt dans ce cas-là, ma conscience me dit de suivre l'Église, ce qui est tout à fait différent. Hein, vous avez, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre des choses comme ça, mais vous aviez, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait avoir des évêques qui, au nom du principe de l'obéissance à l'autorité légitime, faisait comprendre qu'on n'avait pas à s'opposer aux rafles des juifs, etc. Heureusement que dans les diocèses où les choses avaient pu être présentées de cette manière-là, qu'on soit en France ou pas, certains, au nom de leur conscience, n'ont pas suivi les demandes des évêques. Vous avez par exemple, a été béatifié récemment Franz Jägerstätter, un Autrichien.
Oui,
alors c'est admirable parce que vous avez Franz Jägerstätter dit voilà, avant l'Anschluss, nos évêques nous disaient le nazisme, attention, attention. Et puis, après l'Anschluss, les évêques disent le nazisme et l'Église, il n'y a pas trop de problèmes, de toute façon, le Führer va nous aider surtout contre les bolcheviks, etc. Et je ne comprends pas. Et alors, quand on l'envoie à l'armée, il dit, moi, je refuse de servir, je ne peux pas servir Hitler et Dieu, ce n'est pas possible. Mais son évêque lui dit, attention, pour qui, d'abord, pour qui vous prenez-vous ? Pour dire le contraire de ce que disent les évêques. Et puis ensuite, de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre votre famille en péril et vous n'avez pas changé la situation. Franz Jägerstätter est béatifié aujourd'hui. Mm-hmm. On pourrait prendre l'exemple de Jeanne d'Arc, etc. J'ai Jeanne d'Arc en face d'elle, un évêque, qui lui disait, mais est-ce que vous allez suivre ou pas l'Église militante ? Hein ? Et donc, il y a bien souvent, dans l'histoire de l'Église, des cas où l'Église, c'est-à-dire, entendons-nous, hein, ceux qui ont légitimement autorité dans l'Église, peuvent donner des instructions qui ne sont pas conformes à ma conscience. Et alors là, notre foi, si vous voulez, ce qui est de foi catholique, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si dans votre conscience, vous estimez qu'il faut faire ceci, même si la hiérarchie ecclésiastique vous dit de faire le contraire, vous êtes... c'est l'enseignement de Thomas d'Aquin, c'est l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Vous commettez un péché en suivant plutôt les instructions de l'Église que votre propre conscience. Ça, c'est du catholicisme pur, mais qu'on ne sait pas assez. Et c'est ce qui a permis, dans l'histoire de l'Église, parfois, des catholiques d'être résistants contre des instructions qu'ils ont pu recevoir. Mais c'est là que nous devons être précis. Qu'est-ce que je dis quand je dis l'Église ? L'Église, c'est d'abord le peuple de Dieu. Hein ? À avec ses pasteurs. Hein, il n'y a pas d'église sans pasteurs, c'est bien. Mais je pense qu'il faut former la conscience des chrétiens. Il faut leur apprendre à discerner par eux-mêmes. Alors, nous ne sommes pas des marionnettes dans l'église. Nous avons un discernement à exercer. On doit recevoir ces critères. Ça doit faire partie de notre vocation, de notre formation de base, la formation chrétienne de base. On l'apprend trop peu. Pourquoi ? Pour des raisons historiques, parce que quand vous allez au Vietnam, par exemple, le discours que je vous tiens, c'est évident que dans un contexte d'église persécutée, ça devient un discours dangereux, où l'État va... Enfin, l'État, enfin, les autorités, disons, pour le coup, qu'on peut dire illégitimes, s'ils sont des autorités, s'il s'agit de... On va essayer, donc, de diviser les chrétiens entre eux. Hein. Donc, je pense qu'il y a dans notre conscience catholique ce souci très fort d'unité et d'obéissance, plus que dans d'autres églises chrétiennes. D'accord, ça, je ne le renie pas, au contraire, ça fait aussi ses martyrs, etc. Mais il faut savoir que l'obéissance absolue n'est due qu'à Dieu seul. Elle n'est due qu'à Dieu seul. Pour notre foi catholique, hein, c'est pas... Là, je ne vous dis pas quelque chose de personnel et d'original, pour le coup.
Du coup, est-ce que ça peut être une façon d'évangéliser, de suivre sa conscience, est-ce que, pour faire le lien entre les deux est-ce que c'est une qualité d'apôtre, mais importante, que de suivre sa conscience et de l'éclairer et de...
L'Église est censée quand même donner des bons conseils.
Bien sûr. Mais alors c'est là. Mais vous voyez, quand on dit l'Église, c'est là que s'il s'agit de la tradition de l'Église, s'il s'agit des préceptes fondamentaux de l'Église, c'est attention, hein, je ne dis pas que... comment dire, je pense... Il y a un passage de Maximilien Kolb qui dit assez bien la chose que j'ai trouvée chez lui, hein, qui dit en fait, je suis tenu d'obéir à mes supérieurs, dit-il, même lorsque mes supérieurs me demandent de faire quelque chose qui n'est pas pertinent, etc. Il parle en religieux, hein, tout le monde n'est pas. Mais comme religieux, je suis tenu, sauf, je précise bien, vous direz aussi, vous avez le bréviaire chez vous, vous irez voir pour le 15 août, sauf lorsqu'il y a une question de conscience. Ma conscience, je dois la suivre toujours. Et le problème, voyez-vous. Bien sûr, l'Église éclaire ma conscience. Bien sûr, c'est un devoir pour moi de m'informer de ce que l'Église m'enseigne. Mais il faut que, chrétiens, nous soyons des hommes et des femmes d'intériorité. Il faut que ce retour au cœur, cette manière d'interroger sa conscience... Nous ayons le souci de former les gens à cela. Jésus, dans l'Évangile, ne veut pas de marionnettes ou de gens qui appliquent la loi de Moïse. Écoute la voix de ton Père qui te parle dans le secret. Alors, j'entends bien, c'est pour ça, si j'insiste tant, c'est parce que je crois qu'encore une fois, nous avons, il y a une mentalité catholique, il y a une mentalité vietnamienne qui s'explique aussi par l'histoire, etc., où on insiste sur des valeurs qui sont très réelles, celle de l'unité, celle de l'obéissance aux autorités, tout à fait, celle de la nécessité d'éclairer sa conscience. Parce que si ma conscience est erronée, c'est peut-être de ma faute, c'est que je n'ai pas pris le temps de l'instruire, de la former. Il faut en tout cas que je sois toujours à l'écoute, tout ça est vrai. Mais dans l'intime de mon cœur, si, de façon claire, Dieu m'appelle à faire quelque chose, nul ne peut se placer entre Dieu et moi dans le choix que j'ai à faire. Ça c'est du catholicisme, ce que je vous dis. Vous comprenez ?
Mon père, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par rapport à ce qui vient de se passer...
C'est-à-dire
le confinement et tout ça. Oui. Je ne vais pas parler de politique. Hein. Je parle des prêtres qui ont vraiment, comme vous dites, résisté, qui sont ouverts leur église, qui n'ont pas fait... Oui, mais qui ont exposé le Saint-Sacrement, qui ont reçu les fidèles. Mais voilà, c'est sa conscience. Moi, je ne veux pas vous donner le nom du prêtre, ni le nom des prêtres. Mais lui, il dit comme vous, là, ce que vous venez de dire, moi, ma conscience, c'est d'obéir à Dieu. Et pas à l'homme.
Oui. Alors là.
Non, mais il l'a dit, il l'a fait.
C'est sûr. Mais c'est là que je vous entends.
C'est tout ça. Très bien.
On a bien compris. Alors c'est là qu'on voit, mais c'est bien, on débat justement. On est chacun est à place
de ce point de vue-là.
J'emboîterai. Alors, je ne me prononce pas sur l'opportunité de consigne gouvernementale ou de consigne épiscopale. J'ai pas ce. Mais en revanche, je pense que ce principe que je vous donne ne peut conduire à ne pas suivre les instructions des autorités ecclésiastiques qu'en cas grave, quand il ne s'agit pas simplement d'évaluer la pertinence, etc. Alors vous pouvez me dire, mais là c'est un cas grave, je ne veux pas discuter de ça. Mais bien sûr, y a, être dans une communauté, être placé en régime d'obéissance, c'est des obligations, et la conscience aussi vous demande ordinairement de suivre. Mais la référence ultime dans notre vie, c'est celle de la conscience. Il y a bien des cas où je ne sais pas, où les situations sont trop complexes, et alors, je veux dire, le discernement, c'est de me dire, je m'en remets à la sagesse de l'Église, à la sagesse. D'accord, mais c'est encore un jugement que ma conscience a porté en me disant, dans ce cas-là, je ne peux que m'en remettre à la décision, etc. Mais j'ai toujours l'obligation d'interroger ma conscience et de l'éclairer. C'est la première obligation. Et aucune autorité, même une autorité ecclésiastique, ne peut se substituer à cela. C'est ça que je veux dire. Alors, je serais désolé, évidemment, si vous faites la révolution dans vos paroisses, dans vos diocèses.
Oui, la limite entre la désobéissance civile...
Bien sûr. Donc, il y a... Tout à fait. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait... on a toujours à discerner. Je ne peux pas dire, je vais vous donner les cas, etc. Nous avons toujours un discernement, et nous sommes toujours envoyés à la conscience. Et c'est très beau, parce que ça veut dire que nous sommes toujours envoyés à notre cœur, et que nous sommes toujours envoyés à ce dialogue intime avec Dieu, où les choses se décident, enfin, l'orientation de notre vie se décide, etc.
Mais ce que vous dites, moi j'ai l'impression que c'est assez révolutionnaire par rapport à toutes les questions bioéthiques, parce que honnêtement, c'est un grand débat,
c'est presque fini,
les questions bioéthiques, il faut suivre une ligne directrice. Parfois on a vraiment l'impression qu'on est tout dans le même sac et qu'on n'y comprend plus grand chose entre la GPA, le PMA, le machin, tout ça. Et moi, ma conscience, là, je suis un peu perdue, honnêtement. Oui. Mais ce que vous dites, j'ai l'impression que c'est un peu une bombe, parce que ça veut dire, les chrétiens, pensez chacun, réfléchissez selon votre conscience. Enfin, je ne sais pas, mais ça me semble...
C'est pas ce que j'ai dit. Je pense que notre conscience, encore, elle a le devoir d'être éclairée, et il y a bien des cas où... Le plus juste est d'en m'en remettre à l'expertise de gens qui sont mieux formés que moi. Pendant l'expérience du confinement, par exemple, mais on a quand même été obligé de s'en remettre à l'expertise de savoir. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais il y a des gens qui savent, et parfois il est juste de m'en remettre à leur expertise. Ça, c'est dans le domaine des sciences. Mais je pense qu'en Église, c'est la même chose. Il y a bien des choses où on se dit, parce que je crois en Jésus, et que Jésus a donné à l'Église la forme qu'il lui a donnée, je fais confiance. Et voilà. Mais lorsque je suis intimement convaincu que Dieu me demande de faire ceci, c'est-à-dire que le bien est là,
ou de ne pas faire.
Que le mal est là, donc de faire cela, mon devoir, c'est de le faire.
Est-ce que ça sera la conclusion? Je ne sais pas. Après, ça dépend si vous voulez aller directement à la messe. Il y en a qui sont passés par leur chambre.
Juste un point théorique, pour revenir à la théorie, ne pas l'entrer dans l'exemple. Vous avez dit que Pierre s'est effacé. Pierre, il est le symbole de ce qu'est un chrétien aujourd'hui. C'est-à-dire, ça va au-delà de tous les cas concrets, inconcrets qu'on peut citer, c'est qu'on se met à dos la société.
Il est connu, Pierre, des chrétiens ou des non-chrétiens, surtout des non-chrétiens, comme celui qui a renoncé. Hein. Tout le monde se moque de lui. Pierre, ah oui, le coq, il a chanté trois fois. C'est à lui qu'il donne l'Église. Donc, parce qu'il a suivi sa conscience intérieure, il s'est éloigné du monde. Il y avait un livre très beau d'un père, je ne sais plus son nom, mais qui avait gardé ses cahiers au début du siècle, c'était se garder libre. Je crois que Pierre est l'exemple de ce que vous décrivez, de ce que c'est que d'être libre dans les temps fidèles. Mais du coup, on va à l'encontre d'un monde qui non seulement a un Dieu qui est devenu Dieu séculaire, mais qui fait des ravages, parce qu'il n'a aucune humanité, ce délai-là dans notre société. Et en plus, on va à l'encontre du monde parce que notre logique nous pousse à prendre position pour ou contre de façon binaire, alors qu'on est libre justement d'être entièrement libre. Et d'agir pour soi sans rentrer dans les choses fermées. Pierre, c'est la figure absolue.
En tout cas, après Jésus.
Mais l'humilité. Sera...
Merci de ce que vous avez dit. Enfin, c'est très rapide. Hein,
non, mais du coup, c'était un exercice pas facile pour vous deux, parce que c'était frustrant pour vous deux.